Il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Test grandeur nature pour tenter de réconcilier le grand public avec la bourse. L'État a lancé ce matin la souscription destinée à réserver les actions de la Française des Jeux avant son entrée en bourse prévue le 21 novembre prochain.
Dans votre journal également, plus de 1600 migrants ont été évacués ce matin de deux importants campements insalubres du nord-est parisien.
Une opération d'envergure, signe selon les autorités d'un changement de braquet gouvernemental sur l'immigration.
Le groupe Lafarge a obtenu ce matin l'annulation de sa mise en examen pour complicité de crime contre l'humanité, une qualification jusque-là inédite pour une entreprise française.
En revanche, le cimentier reste menacé d'un procès pour financement du terrorisme dans l'enquête sur ses activités en Syrie jusqu'en 2014. Une embuscade contre un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne au Burkina Faso a fait 37 morts et 60 blessés hier, soit l'attaque la plus meurtrière enregistrée dans le pays depuis le début des violences djihadistes. Enfin, l'invité politique de la rédaction, dans une vingtaine de minutes à l'occasion de la première de nos journées spécial consacré aux prochaines municipales. Aujourd'hui, Raphaël Ruffier-Fossoul, rédacteur en chef du magazine mensuel Lyon Capital. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Dans la continuité de votre journal, Thomas, on interrogera les images de l'évacuation des campements ce matin entre Paris et Saint-Denis avec notre invité Bruno Cabanne qui publie Photographier l'exil. C'était effectivement la photographie humanitaire qu'on va questionner ensemble, déshumaniser, ficher, répertorier. La photo peut aussi humaniser et rendre sujet mémoire et identité.
Merci et à tout à l'heure. Si la loterie reste l'un des jeux préférés des Français, en sera-t-il de même avec la privatisation de la Française des Jeux dont le coup d'envoi a été lancé ce matin avant une entrée en bourse fixée au 21 novembre prochain. Ou dit autrement, que peuvent espérer gagner les Français en achetant à partir d'aujourd'hui une action de la FDJ, étant entendu que l'évolution de la bourse est par nature incertaine. À ce nouveau jeu d'argent et de hasard, seul l'État, premier actionnaire avec 72% du capital, semble certain lui de remporter des gains. Tout d'abord, en ramenant sa part à 20%, il pourrait engranger entre 1,2 et 1,7 milliards d'euros. Par ailleurs, et même après privatisation, il continuera d'empocher les quelques 3,5 milliards d'euros de recettes fiscales et sociales versées chaque année par la Française des Jeux. Enfin, il recevra également 380 millions d'euros de l'entreprise en échange donc du monopole pour exploiter pendant 25 ans jeux de loterie et paris sportifs dans son réseau physique. En réalité, la seule rentrée d'argent à laquelle l'État devra véritablement renoncer avec cette opération, c'est le dividende. Il avait touché 87 millions d'euros au titre de l'exercice 2018. Or, cette somme sera drastiquement réduite dès lors qu'il a choisi d'abaisser de 72 à 20% sa présence au capital de la FDJ. Anne-Laure Gimet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté ce matin à la conférence de presse du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, au siège de la société. Quelles sont, Anne-Laure, les modalités pour les Français qui souhaiteraient donc dès aujourd'hui acheter des actions de la FDJ?
Alors d'abord, il y a un ticket d'entrée, 200 euros, soit une dizaine de titres la Française des Jeux a acheté au minimum, puisque le prix de l'action a été fixé entre 16,50 euros et 19,90 euros. Mais pour attirer le grand public, le gouvernement a brandi l'argument promotionnel. Il y aura une décote de 2% sur le prix de chaque action pour les particuliers et puis une action gratuite pour 10 achetés, on se croirait dans un supermarché, sous réserve qu'on les détienne 18 mois. Voilà pour les particuliers. Des investisseurs institutionnels sont bien sûr aussi en train de se faire connaître. Pour ce qui les concerne, l'État a prévu un garde-fou. Il donnera son feu vert à toute prise de participation supérieure à 10%.
Alors évidemment, là où cette privatisation demeure un véritable pari pour l'État, c'est que même si la Française des Jeux est aujourd'hui l'une des rares entreprises publiques françaises en bonne santé financière, cela ne garantit pas de façon automatique le succès populaire souhaité par le gouvernement, ce qui repose au fond cette question. Alors, pourquoi avoir décidé cette privatisation?
Alors d'abord, c'est une question de doctrine. L'État veut garder la main sur des activités liées à la souveraineté, comme le nucléaire ou la défense, ainsi que sur les grands services publics, comme la SNCF. Sinon, il n'a pas, dit-il, vocation à diriger des entreprises concurrentielles. C'est en ce sens qu'il a déclenché cette privatisation, en même temps d'ailleurs que celle d'Aéroports de Paris, qui est, elle, pour l'instant, suspendue. Et puis, le deuxième atout et le deuxième intérêt, surtout, c'est que l'argent dégagé par cette opération va venir abonder un fonds pour l'innovation. Et c'est crucial pour notre avenir, explique Bruno Le Maire.
Il nous faut de l'argent pour le calcul quantique. Il nous faut de l'argent pour le stockage des données. Il nous faut de l'argent pour la santé du 21e siècle. Et tout cela, c'est le fonds pour l'innovation, le plan d'investissement d'avenir, qui doit nous permettre de le financer.
Et ce 1,5 milliard d'euros, hein, à peu près, qui va être dégagé grâce à cette privatisation, eh bien, ce sera aussi d'autant moins à emprunter pour financer ces grands projets, ce qui donc participera aussi d'une certaine manière au désendettement de la France.
Merci Anne-Laure Jumet. Bien loin des préoccupations de l'actionnariat populaire et de l'addiction aux dividendes, le rapport 2019 du Secours catholique publié ce matin dresse lui un portrait saisissant, celui de la pauvreté en France. Il en ressort non seulement que les pauvres sont de plus en plus pauvres, mais aussi que le niveau de vie médian des ménages accompagnés a encore reculé. Le Secours catholique pointe plusieurs réformes en cours, assurance chômage, retraite, accueil des migrants qui toutes risquent, selon l'organisation, de fragiliser un peu plus encore les personnes accompagnées. Plus de 1600 migrants ont été évacués dans le calme ce matin de deux importants campements du nord-est parisien afin d'être mis à l'abri dans des centres d'accueil ou des gymnases aux quatre coins de l'Île-de-France. La mairie de Paris assure elle-même d'ailleurs avoir obtenu des garanties des deux préfets pour que les personnes soient bien acheminées vers des hébergements et non placées en détention. Seule certitude, cette vaste opération intervient donc au lendemain de la longue liste des mesures annoncées hier par le gouvernement et censée remettre de l'ordre dans la politique migratoire de la France. Hors d'avantage sans doute que les quotas, dont l'objectif, rappelons-le, est de faire face à une pénurie de main-d'œuvre grâce à une immigration légale choisie. Cette opération d'évacuation est sans doute bien plus emblématique de la volonté tactique et non dissimulée de l'exécutif de répondre présent sur les terrains favoris de l'extrême droite, pressentie comme l'adversaire de la majorité pour la prochaine présidentielle. Sur cette question, Mathieu Laurent a sollicité Valérie. Elle est membre du collectif La Chapelle Debout et Les Gilets Noirs.
Moi, je le caractérise comme une rafle. Un contrôle administratif géant, sous couvert d'humanitaire. Je suis, moi, sur les campements depuis 2015. On a pu voir, effectivement, comment une communication humanitaire, d'un côté humanitariste, ferme, mais humanitaire, du côté du gouvernement, et puis peut-être une communication plus molle et, on va dire, d'ordre de propreté du côté de la ville de Paris qui ne parle que d'évacuation et obsédée par l'exemplarité visible de la ville, qu'à partir de ça, on laisse se regrouper les gens, on les isole, on fait faire un certain travail. Les citoyens, les associations deviennent les opérateurs de cette mise en place et ce rassemblement des personnes. Et du coup, le gouvernement peut monter en puissance, mais par contre, enfin, la répression peut monter en puissance. Et du coup, en face, on a toujours les mêmes réponses, en fait. Les mêmes réponses de dire, oh mon Dieu, c'est horrible, mon Dieu, on n'a jamais vu ça. En fait, si, on a déjà vu ça. Et en fait, ils vont mettre en place une chasse aux migrants sur la zone. On monte en degré. Mais ce qu'on craint, c'est que la vie des gens va continuer à être un enfer et que le système de répression qui va de la rue au centre de rétention en passant par le foyer, hein, les foyers sont devenus de plus en plus des prisons. Enfin, il y a des arrestations maintenant à l'intérieur des foyers. Il y a des chasses aux migrants à l'intérieur des foyers. Donc individuellement, les vies deviennent de plus en plus écrasées et écrasantes.
Voilà, Valérie, membre des collectifs La Chapelle Debout et Les Gilets Noirs. Elle était interrogée par Mathieu Laurent. Quand on parle immigration choisie, on ne pense pas nécessairement à eux, ou du moins assez rarement. Et pourtant, les expatriés fiscaux rentrent précisément dans cette catégorie de personnes qui, en décidant de changer de résidence, en l'occurrence fiscale, espèrent se mettre dans une situation plus favorable. À cette précision près que si la France entend traquer aussi ses exilés, c'est parce que les fraudeurs cherchent à quitter illégalement le territoire. Toujours est-il que c'est notamment pour débusquer donc ces fausses domiciliations fiscales que le gouvernement a décidé de lancer un nouveau dispositif, un outil d'intelligence artificielle destiné à aspirer de façon systématique les données personnelles publiques que les internautes laissent sur les réseaux sociaux ou les plateformes commerciales. Ou comment collecter les données internet des contribuables pour améliorer la lutte contre la fraude fiscale. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce dispositif fait l'objet d'un article du projet de loi de finances pour 2020. Le texte a été adopté hier par la Commission des finances, malgré les réticences d'un certain nombre de députés d'opposition, notamment LR, qui demandaient sa suppression. Il faut dire que ce texte pose en effet de très nombreuses questions, Catherine, et en particulier s'agissant donc du respect de la vie privée et de la protection des données.
Oui, expliquons d'abord de quoi on parle précisément. Il s'agit de la possibilité donnée aux services fiscaux et aux douaniers de scanner automatiquement certains réseaux sociaux, comme Twitter, Twitter, Instagram, Facebook par exemple, ainsi que des plateformes de commerce en ligne comme Le Bon Coin, Price Minister ou eBay, d'y aspirer en masse les informations qui s'y trouvent pour détecter certaines fraudes. Il s'agirait d'une expérimentation de 3 ans pour 3 types de fraudes, le trafic de marchandises prohibées comme par exemple les cigarettes, l'activité professionnelle non déclarée et la domiciliation fiscale frauduleuse. Les députés ont ainsi un peu encadré le dispositif, mais sans répondre aux vives inquiétudes soulevées dès le mois de septembre par la CNIL dans un avis très critique. Alors qu'est-ce qui pose problème ? Gérald Darmanin présente cela comme un outil de modernisation, en somme un simple ajustement technique à de nouvelles méthodes. Dans le Figaro ce matin encore, il défend un dispositif équilibré qui permettra de mieux cibler les contrôles et de donner aux agents des impôts les outils adaptés pour des contrôles qu'ils font déjà. En réalité, ce n'est pas que cela, mais bien un changement de logique et d'échelle. Il ne s'agirait plus d'enquêter sur des personnes suspectes, mais bien d'une collecte générale de tout un tas d'informations, y compris celles d'internautes qui n'auraient rien à se reprocher. La CNIL rappelle aussi que le fait que des informations soient accessibles en ligne ne donne pas le droit à l'État de s'en servir comme bon lui semble. Elle craint par ailleurs qu'une telle collecte massive ait des effets sur la liberté d'expression, que les internautes n'osent plus parler librement sur les plateformes concernées. Voilà qui devrait faire débat lors de la discussion en séance publique du projet de loi de finances. Du moins, le faudrait-il, au risque sinon de faire passer pour une péripétie technique des questions politiques de liberté publique et d'éthique des algorithmes.
Merci Catherine Pétillon. La Cour d'appel de Paris a annulé ce matin la mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité du cimentier Lafarge, accusé d'avoir financé des groupes terroristes en Syrie pour maintenir l'activité de l'une de ses usines, ou plus exactement d'avoir maintenu en activité son usine de Jalabia entre 2013 et 2014 dans une région du nord du pays sous la coupe du groupe État islamique. Quoi qu'il en soit, et aussitôt l'annonce connue, plusieurs associations ont donc annoncé qu'elles allaient se pourvoir en cassation pour tenter d'obtenir leur rétablissement des charges. Les explications d'Antoine Marette.
L'ONG anticorruption Sherpa annonce effectivement son pourvoi en cassation pour réclamer le maintien de la mise en examen de Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. Pour la responsable du contentieux à Sherpa, Marie-Laure Guillain, la chambre d'instruction manque un pas décisif dans la lutte contre l'impunité des multinationales qui opèrent dans des zones de conflits armés et pour l'accès à la justice des victimes de ces conflits. Alors qu'elle le rappelle, les juges d'instruction avaient bien décidé qu'il y avait des indices graves et concordants qui justifiaient cette mise en examen, en montrant notamment que Lafarge avait financé à hauteur de 13 millions d'euros des groupes armés, notamment l'État islamique. La défense, de son côté, se frotte les mains. Pour les avocats de Lafarge, la Cour d'appel a fait le même constat qu'eux, à savoir qu'il n'existe pas d'éléments justifiant la mise en examen du cimentier pour complicité de crimes contre l'humanité. Ils dénoncent au passage la décision qu'ils qualifient de complètement infondée des juges d'instruction des pôles financiers antiterroristes du tribunal de Paris. Leur décision de mettre en examen Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité, une première mondiale pour une entreprise, avait suscité de vives réactions dans le monde économique. Lafarge qui a gagné une bataille, mais qui reste mise en examen pour financement du terrorisme, mise en danger de la vie d'autrui et violation d'un embargo.
Aussitôt, le massacre connu, une opération de secours et un ratissage de la zone ont été lancés par les forces de défense et de sécurité hier au Burkina Faso. 37 personnes, des employés d'une société minière canadienne, ont été tués et 60 autres blessés dans une embuscade, soit l'attaque la plus meurtrière perpétrée dans le pays depuis la spirale de violence djihadiste il y a 5 ans. Alors cette attaque n'a pas été revendiquée. En revanche, on sait que les assauts des groupes djihadistes de la sous-région, en particulier d'Al-Qaïda et de l'organisation État islamique, ne cessent de se multiplier, pointant ainsi chaque jour un peu plus, Bertrand Galichet, les défaillances de l'armée de ce pays pauvre de l'Afrique de l'Ouest.
L'attaque menée ce matin à une quarantaine de kilomètres de la mine d'or de Boungou visait un convoi transportant des employés de la société canadienne Semafo. Le véhicule militaire en tête des 5 bus a sauté sur un engin explosif. Des assaillants ont ensuite mitraillé 2 décarts avant de prendre la fuite. Les autorités ont lancé une opération de secours et entrepris un ratissage de la zone située aux confins du Burkina, du Niger et du Bénin. 2 attaques avaient déjà visé les convois de personnel de la mine de Boungou et leurs escortes l'an l'an dernier, tuant 11 personnes au total. La société Semafo, basée à Montréal, est propriétaire d'un autre site au Burkina, à Mana, dans l'ouest du pays. Le gouvernement burkinabé a demandé cette année aux compagnies minières de prendre des mesures pour assurer la sécurité de leurs employés. Le délitement rapide de la situation dans la région rend les dispositifs de protection de moins en moins efficaces. Malgré la force régionale G5 Sahel, les djihadistes gagnent du terrain face à l'armée burkinabé, mal entraînée et sous-équipée. L'opération française Barkhane, qui traque les terroristes dans la région du Sahel, est également confrontée à cette montée en puissance des djihadistes, une flambée de violence ininterrompue au Burkina depuis début 2015 et qui a déjà provoqué la mort de près de 700 personnes. Des centaines de milliers d'habitants ont été déplacés ou se sont réfugiés dans les pays voisins.
La spirale de la violence, toujours et encore, au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, au moins 10 soldats ont été tués, 9 autres grièvement blessés hier, dans une attaque contre un convoi militaire, attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram. Deux ex-employés de Twitter et un Saoudien ont été inculpés hier aux États-Unis pour avoir fourni à l'Arabie Saoudite des informations sur des utilisateurs du réseau social critiques envers la famille royale. Les deux anciens employés du géant californien, âgés de 35 et 41 ans, auraient utilisé leur accès privilégié au réseau pour se procurer, entre la fin 2014 et le printemps 2015, des données confidentielles en échange de cadeaux et d'argent liquide. Rappelons que Riyad, allié de premier plan de Washington dans la lutte contre l'influence de l'Iran au Moyen-Orient, fait face à de très nombreuses critiques de la communauté internationale pour ses pratiques en matière de droits de l'homme et en particulier depuis l'assassinat du journaliste et opposant Jamal Khashoggi. Facebook, lui aussi dans la tourmente alors qu'une nouvelle affaire vient d'être révélée par un journaliste américain dévoilant les pratiques anticoncurrentielles du premier réseau social au monde. Fiona Mogadam, bonjour.
Bonjour Thomas.
7000 pages de documents au total ont été remis à plusieurs médias américains dans lesquels on apprend, Fiona, que Facebook a utilisé les données personnelles de ses utilisateurs pour faire pression sur ses partenaires.
7000 documents, en grande partie des communications internes qui remontent à la période 2011-2015 et qui viennent tous d'un même dossier, celui d'une action en justice de l'entreprise Six43. C'est un éditeur d'applications qui accuse Facebook de l'avoir ruiné. En cause, le changement dans l'accès aux données personnelles des utilisateurs opérées par la firme américaine entre 2014 et 2015. À l'époque, Facebook a en effet décidé de restreindre l'accès à ces données pour les développeurs d'applications. Résultat, l'appli de Six43, développée pour être utilisée sur Facebook, ne peut plus se servir de ces informations et fait faillite quelques temps après. Le problème que révèle cette fuite de documents, c'est que d'autres applications ont-elles continué d'avoir accès aux données personnelles des utilisateurs de Facebook. Duncan Campbell, le journaliste à l'origine de la publication, explique par exemple que Facebook a donné à Amazon un accès privilégié aux données des usagers parce qu'il dépensait beaucoup d'argent en publicité sur le réseau. Quand d'autres applis jugées trop populaires et faisant concurrence à Facebook se sont vues couper ses accès. Des pratiques qui semblent donc anticoncurrentielles et qui viennent mettre Facebook encore un peu plus en difficulté. 45 États américains enquêtent actuellement sur la gestion des données personnelles et les pratiques commerciales de Facebook. En Californie, cela fait 18 mois que le parquet mène ses investigations et hier, le procureur général de Californie a saisi la justice pour obliger Facebook à coopérer, l'accusant de ne pas fournir de réponses adéquates. Facebook qui n'a pas non plus répondu aux questions de la presse suite à cette importante fuite de documents.
Merci Fiona Mogadam. Comme chaque jeudi, l'invité politique de la rédaction, comme vous avez pu l'entendre depuis ce matin déjà sur notre antenne, nous inaugurons aujourd'hui donc la première de nos journées spéciales consacrées aux prochaines municipales. Et c'est ainsi que nous retrouvons dès à présent en direct et en duplex des bureaux de Radio France à Lyon, Raphaël Ruffier-Fossoul, rédacteur en chef du magazine mensuel Lyon Capital. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Une première question monsieur Ruffier-Fossoul. La ville de Lyon a une particularité. C'est la seule en France où la majorité présidentielle briguera un nouveau mandat en mars prochain. Est-ce qu'En Marche pourrait perdre la ville ?
C'est une bonne question parce qu'il faut savoir qu'est-ce que En Marche à Lyon ? Il y a un candidat sortant, Gérard Collomb, qui a obtenu l'investiture sans la demander. Et il y a un candidat dissident sur la métropole, David Kimmelfeld, sur Lyon, Georges Kepenekian, deux candidats dissidents, qui avaient demandé l'investiture et qui ne l'ont pas eu. Donc, Est-ce que En Marche va perdre la ville? On va dire ils ont deux chances de la garder. Il y a quand même plusieurs scrutins. C'est pour ça que c'est très difficile de lire. Il y a d'un côté la ville de Lyon en tant que telle. C'est un scrutin sur lequel Gérard Collomb est quand même bien installé, mais officiellement il n'est pas vraiment candidat, puisqu'il a annoncé qu'il se présenterait pour la métropole de Lyon. C'est une nouvelle entité.
Oui, parce qu'il va y avoir deux élections, il faut préciser quand même. Il y a l'élection pour le maire et il y a l'élection métropole, c'est ça. Hein, c'est deux élections différentes, deux scrutins différents.
C'est deux scrutins différents et c'est la première fois que les habitants de la métropole vont être appelés à voter deux fois. Donc c'est très compliqué de savoir comment ils vont faire. Gérard Collomb à Lyon, il a une ancienneté, il a un socle d'électeurs d'à peu près 30% qui en font un favori naturel. Même si on voit quand même l'usure de ses mandats et il y a à peu près 57% dans le sondage qu'on avait fait l'année dernière, mais je crois que ce chiffre est toujours confirmé dans les sondages plus récents, des Lyonnais qui n'en veulent plus, qui aimeraient une alternative. Sauf qu'ils ne la trouvent pas forcément, ce qui fait que Gérard Collomb à Lyon en tant que tel paraît incontournable. Par contre, sur la métropole, c'est un nouveau scrutin. Quel va être le poids d'un Gérard Collomb à Villeurbanne ou d'un Bruno Bonnel qui est le député local? Quel va être le poids de Gérard Collomb dans les Monts d'Or? Quel va être le poids de Gérard Collomb dans les banlieues de l'Est lyonnais? C'est très difficile à lire. Évidemment, ses concurrents sont nettement moins connus, mais Gérard Collomb aussi était peu connu avant d'emporter la métropole en 2001. Et clairement, la dynamique dans la ville, on peut pas dire au niveau des électeurs, mais dans la ville, on sent que tous les responsables associatifs, les responsables culturels, les milieux économiques, les militants qui ont suivi Gérard Collomb depuis le début, tous ces gens-là qui naturellement étaient derrière Gérard Collomb, aujourd'hui, on les retrouve dans les meetings de David Kimmelfeld. Donc le microcosme, l'intelligentsia lyonnaise estime que Gérard Collomb a fait du bon boulot, mais trois mandats, ça suffit, il faut passer à une alternative, même si aujourd'hui, l'alternative, elle n'est pas encore très, très identifiée et très connue. Mais bon, quand les électeurs ont une envie, parfois ils trouvent un chemin. C'est pour ça que, à mon avis, les élections sont assez ouvertes.
Pour ce qui concerne les marcheurs, il y a une grosse bataille entre marcheurs. Vous l'évoquiez, entre David Kimmelfeld qui tient la métropole et Gérard Collomb qui a repris le siège de maire de Lyon. Collomb a été investi par En Marche le 14 octobre dernier. Pourquoi est-ce que ça n'a pas réglé le problème?
Mais parce que les marcheurs n'en veulent plus. Gérard Collomb n'incarne quand même pas le nouveau monde promis par Emmanuel Macron. Et beaucoup des marcheurs qui se sont investis dans la campagne présidentielle à Lyon se sont investis avant tout derrière Emmanuel Macron. Et ils espéraient un renouvellement à Lyon. Donc tous ces gens-là aujourd'hui, et d'ailleurs le symptôme c'est que les quatre députés de Lyon qui sont tous les quatre en marche, sont tous les quatre derrière David Kimmelfeld. Donc, le mouvement politique, sa base, en tout cas, aujourd'hui, n'est pas avec Gérard Collomb.
Pour autant, Kimmelfeld, est-ce qu'il incarne l'alternative, aujourd'hui, à Gérard Collomb? Parce qu'il y a un récent sondage qui montre que, finalement, il n'est pas, en termes de notoriété, il a un problème, et puis il n'apparaît pas comme le recours.
Mais, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de recours naturel. C'est-à-dire, la majorité des Lyonnais veulent autre chose, mais ils ne savent pas qui, ils ne connaissent pas les personnalités qui pourraient remplacer Gérard Collomb. Donc c'est pour ça que c'est très ouvert. Vous avez aujourd'hui les écologistes qui sont très hauts dans les sondages, autour de 20%. Ils ont mis des personnes valables, qui viennent de la société civile, qui ont un parcours, qui incarnent quelque chose, mais qui sont absolument pas connus. Est-ce que c'est eux qui arriveront à incarner l'alternative, ou est-ce que les gens vont se retourner vers les, en fait, celui qui est le président sortant, c'est-à-dire David Kimmelfeld, même s'il est moins connu, ce sera la question qui sera réglée par la campagne. Pour l'instant, la campagne n'a pas commencé. Les gens, on sait qu'ils regardent ça de loin, mais au moment de quand on va rentrer en février et puis début mars, c'est à ce moment-là que les choses vont se jouer.
Quel poids, selon vous, aura la thématique environnementale?
Elle est déjà énorme. Je ne sais pas si elle le sera énorme jusqu'au bout, mais clairement, tout le début de campagne se fait sur la question de l'environnement, parce que les écologistes sont hauts, mais aussi parce que les remontées du terrain, chez tous les candidats, mettent la question environnementale en premier. Et y compris le candidat de droite, qui est Étienne Blanc, qui est pourtant qui vient de la région, qui est un proche de Laurent Wauquiez, qu'on n'imaginait pas sensible à ces questions. Mais les premières propositions qu'il a faites, c'est sur la question environnementale, en estimant qu'on faisait pas assez en termes de végétalisation à Lyon, parce que avec le réchauffement climatique, on va avoir le climat de danger d'ici une vingtaine d'années, et que clairement toutes les bâtiments, tous les aménagements extrêmement minéraux qu'on a pu faire ces dernières années sont pas adaptés. Donc proposition sensée qui vient de la droite, qu'on n'attendait pas, sur la question environnementale. Donc oui, elle va être majeure, et c'est pas un sujet qui a beaucoup été porté par Gérard Collomb sur ces 20 dernières années. Il essaye de s'y mettre, mais on voit qu'il y a un décalage quand même, parce que quand il dit pour lutter à la pollution, je vais construire une nouvelle autoroute, les gens l'écoutent en rigolant un peu quand même, quoi.
Raphaël Ruffier-Fossoul, vous êtes rédacteur en chef du magazine et du site internet Lyon Capital. Je vais juste indiquer que vous avez réalisé un documentaire consacré à Gérard Collomb et à ses municipales qui sera diffusé le 18 novembre, je crois, c'est ça, sur France 3 ?
Le 18 novembre à 22h30 sur France 3, oui.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. La perturbation arrivée la veille par la façade atlantique se décalera progressivement vers les frontières de l'Est. À l'arrière, le ciel restera variable, alternant éclaircies et passages nuageux. Quant aux températures, elles afficheront entre 8 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Tara Schlegel pour le prochain journal de la rédaction.